C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, la 27e conférence des Nations Unies sur le climat se déroule donc jusqu'à la fin de la semaine prochaine à Sharm el-Sheikh en Égypte. Les objectifs partagés par les représentants des 195 pays présents sont de se mettre d'accord sur les meilleures stratégies pour réduire les émissions de gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique et sur les solutions pour les mettre en œuvre. Mais cette année, le contexte est lourd. La crise du Covid, la guerre en Ukraine, les conséquences croissantes du changement climatique sur tous les continents pèsent sur les discussions. Des discussions toujours tendues entre les pays riches, responsables de la situation actuelle, et les pays pauvres, principales victimes. Alors, que peut-on attendre de cette COP27? Pour le savoir, nous sommes allés dans le centre de Paris rencontrer l'une des plus fines connaisseuses de ces négociations, Laurence Toubiana, qui nous accueille dans les bureaux de la Fondation européenne pour le climat qu'elle dirige.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Laurence Toubiana.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la Fondation européenne pour le climat. Vous êtes surnommée l'architecte de l'accord de Paris, car en 2015, vous étiez ambassadrice de la France chargée des négociations sur le climat. À ce titre, vous aviez parcouru le monde pendant plus de 2 ans pour essayer de créer un consensus diplomatique autour des enjeux climatiques. Cela a abouti à l'accord de Paris, ratifié par 191 pays. Je parle souvent de contrôle. Je crois qu'il y a seulement la Libye, le Yémen et l'Érythrée qui ne l'ont pas ratifié aujourd'hui.
Voilà.
Donc ça fait quand même beaucoup de pays qui l'ont ratifié, c'est donc un beau succès diplomatique. Mais depuis 2015, les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas cessé d'augmenter, les conséquences du changement climatique se sont accentuées et les objectifs de l'accord de Paris semblent, pour beaucoup d'observateurs, chaque jour s'éloigner. Est-ce que c'est aussi votre constat ?
C'est une course contre le temps et de fait, si on avait pu faire cet accord qui est devenu la référence pour tout le monde, hein, les gouvernements, les entreprises privées, les institutions financières internationales, enfin, tout le monde, y compris, on regarde ce qui se passe sur l'aviation depuis quelques jours, là, le consensus pour vraiment arriver à la neutralité carbone, donc l'objectif de l'accord de Paris. Donc si on avait fait ça 10 ou 15 ans avant, on ne serait pas dans cette compression du temps. Or, de toute façon, c'était très difficile à faire. C'est très difficile à faire de réduire ces émissions aussi vite, puisque du coup, entre 2015 et 2050, c'est peu de temps, et surtout avec des objectifs intermédiaires, parce qu'on ne doit pas tout faire en 2049, ça ne marchera pas.
Oui, parce qu'il faut rappeler que l'objectif de 2050, c'est ne plus émettre de gaz à effet de serre qu'on ne puisse pas compenser par ailleurs.
C'est ça, et donc on peut en compenser un peu, mais on voit qu'aujourd'hui, on est très loin de pouvoir compenser les émissions, donc nos émissions nettes, elles augmentent. Et il faut arriver à ce qu'elle soit à zéro ou même négative au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on arrive après 2050 à progressivement enlever de l'atmosphère une partie du stock de carbone ou de gaz à effet de serre qu'on y a placé. C'est très long, c'est difficile de réorienter l'activité industrielle, les modes de consommation, enfin tout ce qu'on doit changer, ce qui est un changement systémique profond. Et par ailleurs, y a beaucoup de gens, d'acteurs qui ne sont pas pressés. Donc on a cette tension sans arrêt qui n'est pas nouvelle hein, sur les questions du climat. C'est un changement, un bouleversement considérable. 2015 a fait prendre conscience que ce n'était pas un peu par peu, c'est-à-dire une petite marche après l'autre, que ça ne marchait plus. Mais qu'en revanche, les résistances, elles étaient fortes et elles sont toujours aussi fortes. On regarde aujourd'hui en France, en Europe, les voix qui s'élèvent pour dire « Regardez, la crise de l'énergie, c'est notre défaut de financement, d'investissement dans le pétrole et le gaz. » C'est pas de dire « Ah zut, on a perdu 20 ans de développement des renouvelables qui nous aurait fait par ailleurs économiser aujourd'hui beaucoup plus d'argent. » Donc les résistances sont fortes dans un moment où on doit accélérer. Donc, à la fois, je crois qu'on ne reviendra pas en arrière. On va vers une décarbonation des économies, parce que aussi c'est une révolution technologique qui est maintenant aussi achetée par beaucoup, parce que l'impact du changement climatique, c'est plus demain, c'est maintenant. Donc, tous les facteurs sont dans cette transformation. Et surtout, il y a une demande aujourd'hui des sociétés qui est beaucoup plus forte qu'avant. Aujourd'hui, c'est plus seulement les activistes. Tous les sondages, bien sûr, le pouvoir d'achat d'abord, et rapidement, les gens mettent le climat comme une préoccupation très constante.
Oui, c'est comme si on fonçait le pied avec le pied sur l'accélérateur vers un mur sans tourner le volant. Alors, cette 27e conférence des Nations Unies sur le climat a lieu aussi dans un contexte géopolitique extrêmement tendu, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Le philosophe Pierre Charbonnier parle d'une écologie de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, parce que dans la guerre, qui est un phénomène de disruption fondamentale, le futur peut s'écrire de façon très différente. Un peu comme la crise du Covid d'ailleurs, qui a finalement débouché sur quasiment aucun changement. Au contraire, le désir du retour à la normale, c'est-à-dire la manière dont on vit aujourd'hui. Mais la guerre, elle questionne tout. Elle questionne la géopolitique, les alliances, aussi ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et d'un côté, je suis frappée des mouvements en Ukraine, y compris dans le gouvernement, qui disent « on va reconstruire un pays qui était charbonnier », on va en faire un pays de transition, un pays vert, un pays en avance sur l'énergie verte, par exemple. Donc, il y a cette disruption qui est possible. En même temps, dans l'écologie de guerre, il y a aussi qui contrôle quoi et qui est l'ami de qui. Et je trouve ce qui est très intéressant dans tout ce qui s'est fait aux États-Unis, par exemple, le développement du plan Inflation Reduction Act, où... Au fond, il s'agit d'un projet industriel américain pour développer les renouvelables, mais qui est un projet un peu isolationniste, d'une certaine façon. Ça, c'est aussi de l'écologie de guerre, c'est-à-dire on se rend indépendant de ceux qui nous fournissent les panneaux solaires. Les panneaux chinois sont bloqués depuis bien longtemps aux États-Unis maintenant. Et donc, on fait des chaînes de valeur qu'on contrôle. Et ça, c'est la guerre aussi. C'est vrai pour l'Europe. Après tout, l'Europe, je crois, va être poussée dans cette écologie de guerre, va par aller plus vite et plus loin sur les énergies renouvelables. Mais va se poser le problème des amis et des ennemis sur ceux qui vont fournir peut-être les minéraux nécessaires.
Alors dans ce contexte, justement, la nécessité de satisfaire les besoins énergétiques immédiats des pays semble reléguer quand même un peu au second plan les enjeux climatiques et même certaines frictions diplomatiques, comme le démontre ce déplacement du chancelier allemand Olaf Scholz. Fin septembre.
À Abu Dhabi, le chancelier allemand et la ministre du changement climatique des Émirats arabes unis arborent un large sourire. Olaf Scholz plante symboliquement un arbre, mais vient surtout signer un contrat de plusieurs livraisons d'ici fin 2022 et courant 2023 de gaz naturel liquéfié et de diesel. Des hydrocarbures dont l'Allemagne, asphyxiée par la coupure quasi totale du gaz russe et la flambée des coûts de l'énergie, a grandement besoin à l'approche de l'hiver. Au programme d'une tournée dans le Golfe effectuée avant lui par Boris Johnson, Emmanuel Macron ou Joe Biden, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Samedi à Jeddah, le chancelier est reçu par le prince héritier et dirigeant de facto du royaume, Mohamed Ben Salman. Fortement critiqué sur la scène internationale après l'assassinat sur ses ordres du journaliste Jamal Khashoggi en 2018, celui que l'on surnomme MBS semble être redevenu un interlocuteur acceptable à la faveur de la crise énergétique.
Un reportage de nos collègues d'Euronews. Et en mai, c'est au Sénégal que le chancelier allemand s'est rendu avec pour objectif les ressources gazières du pays.
En ce qui concerne la coopération énergétique, c'est une coopération très vaste, les énergies renouvelables. Et le président l'a déjà dit, les possibilités de stockage pour le solaire et l'éolien, mais également une coopération dans l'exploitation des ressources en gaz naturel dont dispose le Sénégal et concernant les possibilités d'avenir qui existent et les possibilités technologiques pour la construction de centrales qui seront nécessaires. Donc ce sont des sujets à débattre à l'avenir. On veut être de bons partenaires, ça c'est désormais clair et bien sûr dans les entretiens à niveau d'experts, on va approfondir.
Laurence Toubiana, l'Allemagne, première puissance économique européenne qui a amorcé son tournant énergétique il y a plus de 20 ans, voilà, cherche d'autres fournisseurs de gaz naturel que la Russie. Elle a autorisé aussi 27 centrales à charbon à reprendre leur production jusqu'en mars 2024. Le symbole est fort quand même et il n'envoie pas un signal réel de la fin des énergies fossiles qui sont, rappelons-le, massivement responsables des émissions de gaz à effet de serre.
Bien sûr, et l'aspect unilatéral de la réponse des principaux pays européens à la crise, on parlait de l'Allemagne bien sûr, La France et d'autres ont été faire leur marché dans les différents pays producteurs. Ce que d'ailleurs la présidente de la Commission a dénoncé comme un mouvement très dangereux. Ça nous rappelle au fond les débuts du Covid, où chacun est allé chercher qui des masques, qui des vaccins, avant qu'il y ait qu'on se reprenne et qu'on se dise il n'y a pas de solution sans la solidarité européenne. J'espère qu'on est dans cette situation-là, que ce mouvement de... à tout prix d'aller chercher du gaz et du pétrole, alors pas seulement sur le marché, hein, parce que je crois, je comprends que Olaf Scholz s'est engagé vis-à-vis du Sénégal, en tout cas, dans un appui aux équipements et à l'exploration et au transport du gaz. Bon, avec les pays du Golfe, c'est une histoire différente, puisque le problème, c'est effectivement d'avoir des contrats à long terme. Mais tout ça dit, un contrat à long terme, il faut l'honorer. Et ça veut dire que la perspective pour l'Allemagne de réduire plus rapidement l'utilisation du gaz et du pétrole s'éloigne elle aussi. Et donc cette première réaction d'anxiété sur le court terme, et c'est le risque, peut nous engager aussi dans des choix qui sont en fait pas la solution du court terme, mais qui nous engagent en revanche sur le moyen et le long terme. Et je pense en particulier à la construction un peu tous azimuts de terminaux pour importer du gaz liquéfié, qui ne seront pas disponibles pour le prochain hiver ou celui d'après.
Et notamment issus du gaz de schiste américain, par exemple, en Europe.
Ou celui qui va venir d'Égypte. Enfin, il y a plusieurs sources qui vont être mobilisées. Mais si on construit sans solidarité européenne ces nouveaux équipements, ça engage des investissements qu'il faudra jeter par la fenêtre en 2024 ou 2025. Donc il y a une vue courte et malheureusement, effectivement, l'Allemagne a donné un signal qui n'est pas positif, comme d'ailleurs la décision unilatérale de subventionner très largement la consommation d'énergie en Allemagne de son propre chef. Alors, ce qui me rend plus optimiste, c'est que cette réaction ne va nulle part. Chacun paye le pétrole et le gaz beaucoup plus cher. Et qu'il n'y a pas de solution sans solution européenne. Et c'est la discussion d'aujourd'hui, enfin dans les prochains mois, pour arriver à une plateforme qui a été lancée mais qui n'est pas utilisée aujourd'hui pour que tout le monde achète le gaz sans une concurrence effrénée. Encore une fois, sur un modèle qui est très proche de celui qui est arrivé pour les vaccins. Donc, de ce point de vue, la guerre redéfinit les alliances et il faut se reprendre et avoir une stratégie. Je crois qu'un ancien général qui a été l'ancien directeur de l'école de la guerre, que j'écoutais hier soir à propos de l'Ukraine, et disait dans la guerre, le problème, c'est quand même d'avoir une stratégie pour la paix. Et là, il nous manque, on a des grands thèmes de la stratégie pour la paix européenne, y compris en matière énergétique, aller plus vite pour appliquer le Green Deal. Mais en ce moment, on n'a pas vraiment la stratégie pour le faire.
Et alors, comment ce contexte va-t-il peser sur les négociations pendant la COP27? Parce que le GIEC, quand même, nous a rappelé dans son dernier rapport que nous avions seulement 3 ans pour enclencher une réelle décarbonation mondiale massive. C'est mal parti.
Oui, ça, les nouvelles du GIEC sont à chaque fois pires. Je veux dire, depuis le premier rapport, on n'a jamais de bonnes nouvelles. Et quel va être un peu le sursaut, notamment peut-être pas à la COP, mais après, autour du G20, dont la présidence va être assurée par l'Inde, ces aspects des impacts, y compris sur les pays émergents, sur l'économie des pays émergents, il y a quand même un moment où la dissonance cognitive ne peut pas aller trop loin.
Vous voulez dire quand un tiers du Pakistan est sous l'eau
L'Inde a énormément souffert entre sécheresse et inondation, Chine pareil. Bon, quand des grands pays émergents qui ont souvent dit le climat, c'est pas notre sujet, enfin la réduction des émissions, c'est pas notre sujet, ne peuvent pas infiniment dire ça alors qu'ils en payent le prix de plus en plus. Donc je trouve qu'à la COP27 et au G20, ce lien entre, et ce qui vient d'ailleurs aussi aux solutions financières qui devraient être apportées, le lien entre les impacts, les pertes et les dommages que chaque pays maintenant est en train de subir, et en même temps l'idée qu'il faut aller plus vite, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faudra pousser pendant cette COP27.
Et en parallèle de tout cela, la Russie étend son influence géopolitique, notamment en Afrique. Est-ce que ça peut jouer sur les négociations?
Alors, il semble que... Enfin, les gouvernements africains sont évidemment indépendants, mais la Russie fait campagne sur le gaz en Afrique depuis très longtemps. et sur les ressources en général. On sait comment le groupe Wagner est impliqué dans la protection d'un certain nombre de mines, aurifères ou de matériaux rares. Donc il y a une présence qui n'est pas une présence qui va dans le sens de s'occuper des biens publics mondiaux, au contraire. Donc certainement, la Russie jusque-là dans les négociations climatiques est restée plutôt silencieuse. Je ne sais pas ce qui se passera dans les jours ou les mois qui viennent. Ce qui est préoccupant, c'est que la Russie est devenue un émetteur très important. La guerre n'a pas facilité les choses, puisqu'au contraire, le torchage du pétrole n'a jamais été aussi important. Les émissions de méthane qui sont liées à la fonte des glaces en Russie se sont accélérées. Donc ça devient un vrai sujet de pollution mondiale. Évidemment, dans un contexte où on ne peut pas en parler. Donc, on verra. Est-ce que la Russie a beaucoup d'influence sur ce sujet-là? On verra. Ça peut être, après tout, un bon sujet de déstabilisation. Ça, c'est une spécialité.
Il y a aussi les relations glaciales entre les États-Unis et la Chine qui peuvent fortement peser sur cette COP27. Ils avaient signé un pacte climat l'année dernière à Glasgow, à la COP26, qui semblait vertueux. Qu'en reste-t-il aujourd'hui, puisque suite à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan début août, la Chine avait dit on arrête toute relation, enfin beaucoup de nos relations diplomatiques avec les États-Unis, on rompt ce pacte climat. On en est où là ?
Alors là, la formule consacrée, en tout cas, des interlocuteurs chinois, notamment de l'envoyé spécial du climat, le ministre chinois, c'est « les relations sont suspendues ». Je crois d'ailleurs qu'effectivement, il y a eu en tout cas à New York, pendant l'Assemblée générale, des contacts informels entre John Kerry et le ministre des Affaires étrangères chinois. La Chine veut une réussite à la COP27. Elle ne veut pas jouer la tension. Elle voit et elle considère qu'effectivement, c'est difficile d'avancer plus vite. La Chine ne compte pas annoncer de nouvelles contributions nationales plus ambitieuses. Elle veut surtout montrer qu'elle fait ce qu'elle a dit et qu'elle le fait plus vite, mais sans indication de changement d'objectif. Elle va essayer de trouver un compromis sur les pertes et dommages avec les États-Unis, sans doute, parce que la Chine est aussi responsable aujourd'hui de beaucoup d'émissions, y compris du stock d'émissions mondiales. Donc on peut voir sur le terrain une Chine et des États-Unis qui travaillent à des solutions conjointes. Donc je crois évidemment pas au rapprochement tel qu'il a pu se manifester publiquement à Glasgow, parce que ça ne sera pas possible, ni d'un côté ni de l'autre. Mais en revanche, plutôt pas forcément des partenaires antagonistes. Simplement, la Chine a besoin, comme au fond l'Europe aussi, de justifier le fait que les plans de diminuer le charbon, c'est pas pour tout de suite, parce qu'il y a la crise de l'énergie. Et que ça, c'est une source de sécurité énergétique, puisque c'est leur charbon. Donc, au fond, ils vont dire, à court terme, de toute façon, c'est la crise de l'énergie, personne n'y peut rien. Donc, ne regardons pas ce qu'on fait tout de suite, regardons plus loin.
Et c'est là où le temps, à nouveau, va nous manquer. Allez, n'ayons pas peur, c'est en tout cas ce que chante le groupe australien Midnight Oil, We Are Not Afraid.
There's a dark cloud on the horizon. And it's coming closer every day. No one understands why it's happening. Sometimes
get inside our heads. Too much grasping madness, reaching everywhere. Waking up, oh, a world of fear. Yet darkness lives, the way ahead is clear.
Are not afraid, n'ayons pas peur, chantent les Australiens Midnight Oil. Nous parlons des enjeux de la COP27 aujourd'hui avec Laurence Toubiana, directrice de la Fondation européenne pour le climat. L'Australie, justement, Laurence Toubiana, a enfin revu à la hausse ses ambitions en matière de climat après le retour des travaillistes au gouvernement en mai dernier. Il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles, alors quand on en a une, on s'y accroche.
Elle est importante parce que l'Australie, c'est beaucoup de relations, par exemple, avec l'Inde, notamment autour du charbon, donc c'est une bonne nouvelle.
Ça peut avoir un impact sur les négociations à la COP27 ?
En tout cas, c'est quand même le premier mouvement important. Le deuxième, c'est que peut-être qu'on aura une bonne surprise avec un Brésil engagé sur l'Amazonie. Encore une fois, je pense que l'Inde est en train de choisir son camp sur le climat parce que Modi y voit une politique industrielle revisitée, devenir une puissance solaire, à la fois comme producteur d'énergie solaire, mais aussi producteur de tous les matériaux qui vont avec. Et donc, il y a quelque chose qui se joue dans la compétition entre la Chine et l'Inde qui peut, en tout cas, aller dans le sens d'une décarbonation de l'économie indienne et d'une Inde, du coup, un peu plus allante sur les négociations internationales. Alors, est-ce que ça se passera à la COP27 ou dans le cadre du G20 que l'Inde préside ? Je ne sais pas. Peut-être que Modi voudra se réserver ça dans un exercice qu'il contrôle. Mais en revanche, les signaux venus d'Inde sont aussi des signaux positifs.
Alors chaque pays ou groupe de pays a préparé ce qu'il allait venir défendre à cette 27e conférence des Nations Unies sur le climat. Début octobre, les 54 pays africains qui ont toujours pour habitude de parler d'une seule voix dans ces conventions des Nations Unies sur le climat se sont réunis à Kinshasa. Je vous propose d'écouter les propos prononcés à cette occasion par Eve Bazeiba, c'est la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et du Développement Durable de la République démocratique du Congo. Elle est interrogée par Pascal Moulégois.
80% des pollutions dans le monde, c'est la responsabilité des pays industrialisés, dont le G20. Et les 16 autres pourcents, c'est les pays à économie intermédiaire. Donc, si on ne donne pas l'alternative aux protecteurs des forêts, ils seront obligés de se nourrir de la forêt. Parce qu'ils vivent dans la forêt, ils vivent de la forêt. À côté de ça, nous avons les tourbières, par exemple, où nous savons dans 80% des cas, en dessous des tourbières, il y a le pétrole. Vous savez, avec la crise actuelle, la pénurie du carburant, la République démocratique du Congo est soumise à l'importation du carburant et le prix est fixé par l'OPEP. Il n'y a aucun pays du monde qui a déjà dit, écoutez, le bassin du Congo est en train de devenir aujourd'hui le premier poumon du monde. Nous avons besoin de ces bassins du Congo et que les pays de ces bassins donnent-leur du carburant gratuitement. Personne. Donc les Congolais ne peuvent pas continuer à importer les carburants alors qu'ils ont les carburants sous leurs pieds. Je pense qu'il serait mieux qu'on puisse utiliser les normes, les technologies, les standards internationaux pour devoir non seulement exploiter ces ressources, mais aussi les transformer localement en vue de leur donner une plus-value. Vous savez, dans la situation actuelle, je prends les cas des pays du Nord, l'Allemagne précisément et les autres, face à la crise entre les conflits entre la Russie et l'Ukraine, l'Allemagne est en difficulté aujourd'hui, ne peut plus importer le gaz de la Russie. L'Allemagne, au-delà des engagements d'atténuation, n'est-ce pas, elle est obligée de retourner à l'énergie fossile. C'est malgré elle, c'est un cas de force majeure. Entre-temps, nous, en République démocratique du Congo, disons les pays les moins avancés, nous sommes aussi obligés d'amener notre peuple au développement. D'ici 2030, nous devons donner un rapport de développement durable, pas pour la consommation extérieure, mais qu'il y ait de l'impact visible dans les paniers de la ménagère, dans la vie quotidienne de la population. On a un choix à faire, où on a la possibilité de concilier la protection de l'environnement et le développement. Ça ne gêne pas.
Laurence Toubiana, comment est-ce que vous réagissez à ces propos de Eve Bazaïba, la vice-première ministre de la République démocratique du Congo ?
Ben, évidemment, il est tout à fait légitime que beaucoup de pays africains qui ont des ressources disent qu'ils ne voient pas pourquoi ils ne pourraient pas exploiter ces ressources. En même temps d'ailleurs que beaucoup de pays européens viennent les visiter pour leur acheter la production qui va venir ou qui est déjà là. Donc il y a une espèce d'hypocrisie à dire ce qui s'est passé à Glasgow, puisque tout ça vient de là, qu'au fond il n'y aurait pas de financement international ou de crédit à l'export pour le secteur du pétrole ou du gaz. En même temps qu'on a fait un trou dans notre taxonomie pour dire ben, le gaz, on pourrait le considérer comme une énergie verte. Donc la position européenne, elle est à mon sens intenable. La seule chose qui est raisonnable et cohérente, c'est de dire ben, on achète du gaz ou du pétrole, comme on achète à d'autres, mais on vous aide et on investit dans aussi les autres solutions de développement dont parle la vice-ministre. Et notamment dans les énergies renouvelables, enfin sous toutes leurs formes. Ou le transport de l'électricité, puisque c'est aussi un sujet très important en Afrique. Hein,
ça veut dire que si on signe pour un contrat énergie fossile avec un pays africain, on signe en plus un contrat pour le développement d'énergies renouvelables.
C'est ce qui est en train de se passer pour l'Égypte, et je trouve que ça, c'était cohérent. On va acheter du gaz liquide en Égypte, et en même temps, et ça, c'était une démarche européenne et pas bilatérale. Et en même temps, il y a l'engagement avec la Commission européenne, enfin les fonds européens et la Banque européenne de reconstruction et développement, de dire on vous accompagne sur la transition. Et l'Égypte voudrait s'engager à fermer un certain nombre de centrales à gaz pour aller vers une transition renouvelable. Alors, c'est très bien joué d'ailleurs du point de vue de l'Égypte qui accueille la COP, mais je crois que c'est ça qui est cohérent. C'est pas de dire on n'investit pas, mais on achète. Il faut dire on achète et on investit, mais pas forcément dans ces secteurs-là.
Alors, il y a la plus grande tourbière tropicale entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. C'est l'équivalent, si on l'exploite, de 3 années et demie d'émissions mondiales de gaz à effet de serre. Comment dire à ces pays de ne pas exploiter alors qu'on est dans le contexte géopolitique que nous évoquions? Il y avait eu une initiative, vous vous en rappelez sûrement, entre 2007 et 2013 qui s'appelait l'initiative ITT Yasuni. Hein. L'idée, c'était l'Équateur qui disait mais nous, on a du pétrole sous nos pieds, on ne va pas l'exploiter si vous nous donnez de l'argent pour compenser. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être discuté dans les négociations de la COP27?
Alors, on va bien être obligé d'y revenir. À l'intermédiaire de ça, ou à l'intermédiation de ces choix, il y a la question des crédits carbone, que d'ailleurs beaucoup de pays africains commencent à revendiquer. Alors évidemment, dans le bassin du Congo, c'est quand même la grande réserve de compensation possible, hein, de stockage du carbone naturel, en tout cas par la forêt. Surtout que la forêt du bassin, elle est aujourd'hui, pour l'instant, presque en meilleur état que l'Amazonie, même si évidemment le bassin est plus petit. Et on pourrait avoir, et beaucoup de dirigeants africains commencent à y réfléchir, une utilisation vertueuse de ces crédits carbone, qui sont évidemment incompatibles avec l'exploitation du pétrole au même endroit.
Alors, donc, c'est l'article 6 de l'accord de Paris. Il faut expliquer ce que c'est, les crédits carbone. C'est en fait permettre à des pays ou à des entreprises qui n'arrivent pas à diminuer suffisamment leurs propres émissions de gaz à effet de serre d'investir dans des projets de compensation, par exemple en préservant certaines parties, certaines forêts ou en reforestant, etc. Mais c'est très, très critiqué en Afrique aussi parce qu'il y a des gens qui disent que c'est une sorte de nouveau colonialisme vert.
En partie, surtout si c'est vu comme des réserves closes auxquelles les habitants de ces forêts n'auraient plus accès. En revanche, des projets d'agroforesterie où la population est le gardien de la forêt, mais aussi en vie, Ça, c'est tout à fait envisageable et ça peut être évidemment très intéressant parce qu'on sait que ceux qui habitent dans la forêt, quand ils ont évidemment suffisamment de ressources pour ne pas brûler de bois pour faire la cuisine ou donc d'autres ressources, notamment pour l'énergie dont ils ont besoin, ça peut devenir, comme en Indonésie, ça a été le cas dans beaucoup de grandes forêts. Les habitants des forêts étaient les meilleurs gardiens. Donc, il y a peut-être cette relation à rémunérer. Parce que, de fait, ces populations ont été capables d'entretenir ces forêts et de les garder vivantes.
Mais le Gabon est l'un des premiers pays à tenter l'expérience.
Absolument. Alors, et d'ailleurs, à se dire, pour que ça marche, ces marchés carbone, cette valeur ajoutée à notre biodiversité, au fond, et au maintien, il ne faut pas que ce soit n'importe quoi, il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit suffisamment rémunérateur. Et ce qui m'inquiète, c'est que pour l'instant, vous savez, il y a deux régimes dans ces marchés, mais il y a ce qu'on appelle des marchés volontaires, c'est-à-dire c'est les pays ou les entreprises ou qui essayent de se porter sur le marché et qui achètent des tonnes. Alors, c'est ce qui se passe pour les compagnies aériennes aujourd'hui. Hein. Quand vous achetez un billet d'avion, on vous dit il est compensé. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment, on peut, et c'est normal que ce soit critiqué parce que d'abord, il n'y a pas beaucoup de vérification de l'effet vraiment réel de cet argent qui arrive. Et ensuite, la rémunération est tellement faible que ça ne peut pas compenser une ressource alternative qui est celle du pétrole. Donc, un prix plancher, une régulation de ces marchés, et c'est pour cela qu'il me semble que la réflexion du Gabon est intéressante. Après, en écoutant la vice-ministre, l'Allemagne n'est pas retournée aux énergies fossiles, sauf au maintien du charbon plus longtemps, mais on ne consomme pas plus de pétrole ou de gaz, simplement ce n'est pas les mêmes qui le vendent. Mais ça pose une question éthique et morale importante, et a deux sens. Dans le court terme, je ne vois pas de raison évidemment de s'opposer à l'exploitation du pétrole et du gaz en Afrique, de quel droit? Mais en revanche, se dire que d'ici 15-20 ans, ce marché européen, en tout cas, il va se fermer. Parce que ça, je pense que la tendance, elle est irrésistible pour toutes ces raisons, à la fois de sécurité énergétique, d'évolution technologique. Et donc, s'enfermer dans une exploitation de ressources qui n'ont pas souvent porté bonheur à qui que ce soit. Hein,
on parle de la malédiction du pétrole.
Voilà, la malédiction du pétrole, malheureusement, elle est encore, sauf peut-être la Norvège, elle frappe encore à peu près tous les pays qui vivent de leurs ressources naturelles. Et que ça, c'est aussi bien postcolonial que de protéger les forêts.
Alors tout cela nous donne la fièvre. La fièvre, c'est ce que chante Julien Doré dans C'est pas du vent sur RFI.
Je veux faire comme tout le monde, je veux juste un peu douter. Je crois que la terre est ronde, mais je préfère comploter. On peut pas changer les ombres, on peut juste les éclairer. Jusqu'à ce que le soleil tombe, lassé de nous réchauffer. Et dans nos envies de plage, du VA et du VB, j'en vois quelques-uns qui nagent vers ce qu'on a déjà coulé. Mais si l'époque a des puces, c'est qu'elle a pas le bon collier. La beauté, tu sais, ça s'use, c'est comme ton premier baiser. Le monde a changé, il s'est déplacé quelques vertèbres. A changé, il s'est déplacé quelques vertèbres. Où était l'astéro?
Le monde a changé, il s'est déplacé quelques vertèbres, c'est le moins que l'on puisse dire, et c'était la fièvre de Julien Doré dans C'est pas du vent sur RFI.
There is no planet B.
C'est pas du vent.
There is no planet blah.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Blah blah blah, blah blah blah.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Net zero by 2050, blah blah blah, net zero, blah blah blah, climate neutral, blah blah blah.
Nous parlons des enjeux de la COP27 avec Laurence Toubiana, directrice de la Fondation européenne pour le climat. Les conséquences du changement climatique se font de plus en plus sentir, hein, vous l'évoquiez, sous forme de sécheresses, d'inondations et de nombreuses catastrophes naturelles. Alors la science de l'attribution qui s'est développée ces dernières années ne laisse plus aucun doute. Hein. Les scientifiques savent désormais démontrer quelle est la part du changement climatique dans tous ces bouleversements. Mais chaque année, Laurence Toubiana, c'est comme si ces catastrophes restaient un peu à la porte des négociations. On a l'impression quand on se retrouve dans ces ambiances de conférences internationales qu'un tiers du Pakistan sous l'eau ou des îles qui vont disparaître ou des inondations qui créent de la famine, ça n'émeut pas grand monde. En tout cas, ça ne rentre pas vraiment cette émotion-là dans la salle des négociations.
Ou même, Anne-Cécile, c'est encore pire, ça rentre et on n'en fait rien. Il n'y a pas de discours de chef d'État ou de ministre qui ne commence pas par les impacts. La perte des domiciles, les gens déplacés...
Ah mais si on écoute les discours en début de COP, on a l'impression que tout est résolu. Hein.
Et on a l'impression que le drame est là et que tout le monde pleure. Et puis après, quand on parle de comment on fait, là, il n'y a plus de consensus. Et simplement, je pense que d'une manière ou d'une autre, là, les impacts, ils sont de plus en plus visibles. Et c'est surtout, c'est plus seulement le malheur réservé aux petites îles. Et c'est maintenant général. Tout le monde a eu une année 2022 marquée par de l'Asie à l'Amérique latine, en passant par l'Afrique et par l'Europe du Nord. Donc, on ne peut plus ignorer ça. Donc, il me semble que cette question assez brûlante, comment on fait pour être solidaire avec des pays qui ne sont pas forcément les émetteurs, mais qui subissent les conséquences, me semble être une question que la COP27 ne peut pas éviter. Et que l'argument juridique a été présenté depuis longtemps, notamment par les pays développés, sur le thème « on ne peut pas être tenu responsable directement », puisque qu'est-ce que ça voudrait dire ? Il n'y a pas de relation entre les émissions françaises, par exemple, et cette catastrophe dans la Caraïbe. Donc on ne peut pas avoir un régime qui règle cette responsabilité. Mais je crois qu'on va être obligé d'évoluer sur cette notion de responsabilité qui, évidemment, n'amène à rien, et de se dire qu'il faut que les pollueurs paient, et qu'il faut que les activités polluantes, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, rémunèrent ce qui va être la reconstruction, l'aide humanitaire peut-être d'urgence, mais en tout cas la reconstruction de ces pays. Donc je pense que cette discussion, elle va être horriblement difficile, elle sera peut-être pas conclusive à la COP27, mais elle va cesser d'être une discussion sur un processus de dialogue ou de concertation.
Depuis la conférence de Varsovie qui a eu lieu en 2013, depuis la conférence des Nations Unies sur le climat qui s'est déroulée en 2013 à Varsovie, on parle des pertes et dommages, c'est-à-dire justement comment pouvoir rémunérer les destructions causées par le changement climatique dans les pays qui n'ont pas les moyens de s'adapter. 2013, ça fait quand même un sacré nombre d'années. Et aujourd'hui, c'est une coquille qui est toujours quasiment vide.
Alors, je pense qu'à la COP27, on ne pourra pas laisser la coquille vide parce que là, les chocs sont trop grands et on ne peut plus les ignorer. Donc, on ne va pas pouvoir aller d'un mécanisme de concertation à un dialogue, à une autre concertation. Et on va être obligé d'avancer, me semble-t-il. Alors, il y a plusieurs dimensions à ça. D'une part, aujourd'hui, les négociations, enclenchées d'ailleurs par Kristalina Georgieva au Fonds monétaire international pour changer les critères de restructuration de la dette ou l'allègement de la dette de pays affectés par les événements extérieurs, donc les événements extrêmes liés au climat. Donc, il y a cette voie déjà qui va être engagée, qui a déjà été engagée et qui devrait se généraliser. Mais je crois qu'on va, me semble-t-il, en tout cas, il y aura beaucoup de voix pour soutenir la proposition d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, de taxer les activités fossiles, qui sont les activités polluantes, pour réparer ces dommages. Donc, on ne s'entendra sûrement pas tout de suite à la COP27, mais là, on va être obligé quand même de parler de mécanismes financiers quelle que soit leur nature.
Mais comment ça pourrait se traduire concrètement? Qui pourrait mettre cela en œuvre à l'échelle mondiale?
Quand on regarde ce qui se passe, qui est tout très, très lent aussi, à l'OCDE sur les profits des multinationales, on va vers un taux d'imposition moyen, enfin en tout cas minimum, sur lequel un certain nombre de pays se sont accordés, en tout cas les pays de l'OCDE. Puisque, évidemment, avec les différents mécanismes fiscaux, beaucoup des profits des entreprises multinationales n'étaient pas taxables dans le cadre national de chacun de ces pays. On peut imaginer, on l'a fait pour le transport maritime, une taxe justement pour pallier aux accidents des marées noires. Et c'est à ça que pense Antonio Guterres. C'est une taxe qui devrait être prélevée par les pays sur les activités fossiles et qui soit reversée à plusieurs fonds, ça dépend de leur destination.
Donc ce seraient les entreprises qui paieraient ?
Alors c'est une taxation des entreprises, mais qui ce sera dans le cas des entreprises privées ou des entreprises publiques, puisque dans le secteur des fossiles, il y a beaucoup d'entreprises publiques. Alors on en est très loin, mais on va vers cette idée de responsabilité des pollueurs qui n'est pas la même chose qu'un gouvernement ou une responsabilité historique d'une nation. En tout cas, après tout, ça vaut la peine d'essayer.
En attendant, dans les pays qui souffrent du changement climatique, la société civile s'organise. Une caravane africaine pour le climat a eu lieu avant la COP dans 27 pays africains pour sensibiliser sur les enjeux climatiques. Et il y a un fort ressenti de la part des populations, comme l'exprime Moussa Koné, porte-parole de la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau, partenaire de la caravane africaine pour le climat.
L'article 6 de l'accord de Paris, aujourd'hui, qui est contourné par les pollueurs et payeurs, qui les permettent d'être livrés à l'accaparement des grandes zones, des grands espaces, pour dire que oui, nous allons contribuer et à planter beaucoup d'arbres pour le changement climatique. C'est un danger parce que nous avons 60% des terres arables qui sont en Afrique et la démographie en Afrique, il y a plus en plus de personnes qui travaillent la terre. Et vu qu'il y a cette ouverture de l'article 6 de l'accord de Paris, ça permet à tous ces grands multinationales, à toutes ces grandes entreprises, de venir s'accaparer à des milliers et des milliers d'hectares de terre. Au Sénégal, il y a un exemple déjà. On commence déjà à nous alerter sur ce problème, qui est un vrai problème. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les solutions qui sortent des COP, nos politiques nationales, dans leur budget, fondent la solution des pays sur ça. Mais les fonds tant attendus n'arrivent pas, on le sait. Donc, outre à ça aussi, je devrais faire un lien en tant que communauté de l'Afrique de l'Ouest, affectée aussi par ce problème de radicalisme. Le problème de radicalisme, j'ai toujours dit dans mes discours qu'en tant que paysan, il faut que les gens comprennent que le problème de changement climatique a un impact très fort à la radicalisation. Parce que c'est les conflits intercommunautaires, la réduction de l'espace de culture, la réduction de l'espace utilisable des terres arables par la sécheresse qui fait que beaucoup d'éleveurs se voient un jour au jour au lendemain, tous les bétails sont morts, ils n'ont rien à faire. Des jeunes paysans qui n'ont pas de terres à cultiver, donc qui n'ont pas de quoi manger, se livrent au banditisme. Ils sont des proies faciles de ceux qui recrutent pour le djihadisme. Le radicalisme est parti de ça, parce que c'est des gens qui n'ont rien aujourd'hui dans le Sahel. Des proies faciles à recruter, à leur faire payer pour qu'ils prennent des armes. Donc le changement climatique a un impact très fort aujourd'hui à la guerre du Sahel. Il faut faire le lien, et le lien est là. Il faut vivre sur le terrain comme nous pour comprendre que vraiment, quand on n'a rien à manger, on devient une proie facile pour celui qui a quelque chose à te donner en fin de mois.
Laurence Toubiana, là, on parle de conséquences autres que les sécheresses, les inondations et les catastrophes naturelles. L'insécurité qui est créée sur les continents africains par les conséquences du changement climatique.
Cette question du lien entre changement climatique et sécurité, les militaires la connaissent bien. Ça fait longtemps d'ailleurs que beaucoup d'armées, enfin principalement l'armée américaine, mais c'est aussi le cas de la défense française, réfléchit au potentiel de déstabilisation du changement climatique et donc du coup de déstabilisation des pays, des gouvernements. Bon, il y a beaucoup d'exemples, le Tchad avec la tension entre éleveurs et agriculteurs qui s'est intensifiée énormément, mais et aussi parce que dans ce jeu de tensions, il y a aussi des intérêts économiques qui interviennent. Donc l'aspect de conditions de vie, de potentialité, de moyens de vie, elle s'est réduite. Ce serait intéressant que la communauté climat fasse le lien avec ces questions de sécurité.
Parce que ça, dans les COP, on en entend rarement parler.
Presque jamais.
Pourtant, la sécurité augmente au Sahel.
Absolument, d'une façon même alarmante. On n'a que des mauvaises nouvelles tous les jours. Et avec des gens, des bouts de société qui sont complètement déstabilisés et qui ne voient pas de ressources. Donc, de ce point de vue, c'est très étonnant que cette communauté... Mais elle est fondamentalement trop technicienne. Et elle n'a pas mis assez l'accent sur la vie des gens, la manière dont les sociétés souffrent ou peuvent s'adapter. Et donc, c'est pour ça que je crois que cette COP, elle va être quand même beaucoup autour de l'adaptation et justement de l'impact. Et j'espère que de ce point de vue, la question des personnes va devenir plus importante que cette question de telle ou telle technologie.
Vous avez écrit récemment qu'il faudrait mettre en place un dispositif de sécurité climatique. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
J'explore un peu l'idée. Je crois qu'il faut d'abord avoir de bonnes armes de connaissance. Pour au moins anticiper ces crises. Enfin, le Sahel, ça fait longtemps qu'on sait que ça se passe. Donc, avoir de la difficulté à financer l'adaptation au changement climatique, ça veut dire ne pas reconnaître qu'il y a un enjeu de sécurité. Donc, déjà, faire mieux le travail de l'aide au développement que ce qui s'est fait jusque-là. C'est aussi, avec les sociétés... prendre en charge avec elles, mais à partir de leur travail, comment on va s'adapter à ces tensions qui vont monter. Je prends un exemple d'une jeune femme qui, Indou Marou, que vous connaissez bien, qui a fait tout un travail de cartographie
des tensions. Porte-parole des femmes peules du Tchad.
Voilà, et porte-parole d'ailleurs même des groupes indigènes aujourd'hui dans la Convention climat. Elle a fait une carte avec les éleveurs et les agriculteurs du Tchad qui se battent pendant la saison où les éleveurs peuvent en principe passer le contrôle des points d'eau. Et elle a travaillé à ce que tout le monde fasse la carte de détention pour essayer de voir là où les espaces deviennent évidemment source de conflits. Et je pense que c'est une grande chose que de penser l'adaptation. Comme une manière de... Ces mécanismes de sécurité climatique, c'est les mécanismes sociaux de sécurité. Hein. C'est pas une agence militaire qui aurait des informations avec, je sais pas moi, l'observation spatiale. L'observation spatiale est utile, mais il faut que les personnes qui subissent comprennent ce qui est en train d'arriver et regardent comment gérer les conflits sur place. Mais laisser les choses en l'état comme ça, c'est vraiment aller vers une déstabilisation complète de grandes régions en Afrique.
Vous attendez beaucoup de cette COP ?
Il y a des hauts et des bas dans l'action climatique. J'y suis depuis très longtemps, 97 je crois, ma première COP, avec le protocole de Kyoto. Bon, sans compter Rio bien sûr, et le lancement de tout ça. On n'est pas dans un haut, évidemment. La guerre, les conflits avec la Russie, l'enfermement de la Chine sur elle-même, les tensions avec les États-Unis, que sais-je encore. Les producteurs de pétrole qui tiennent le haut du pavé, tout ça n'est pas bien. Donc on est dans un bas, mais quand je regarde un peu les cycles depuis 50 ans, il y a des hauts, 2015 c'est un haut, et là on est dans un bas. Dans ce cas-là, d'abord il faut serrer les dents, il faut continuer, mais aussi montrer que, regardez quand même là où on est depuis 2015, ou même si on regarde 50 ans en arrière, on n'est plus dans le même monde par rapport à cette question du climat. Seulement le mur est beaucoup plus près.
Merci Laurence Toubiana de nous avoir reçus dans les bureaux de la Fondation européenne pour le climat dans le centre de Paris. Merci à François Porcheron pour avoir monté ce studio et réalisé cette émission. Merci à vous chers auditeurs pour votre fidélité. Continuez à nous écrire et à partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure.